Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc de récits d'opérations, de souvenirs en tout cas de vie militaire, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Julien, donc bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un épisode qui est aujourd'hui en partenariat avec l'École de guerre. Vous êtes cette année à l'École de guerre. Mais vous êtes venu nous raconter un épisode, un moment qui remonte un peu, je crois. Alors, dites-nous d'abord, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Où est-ce que vous étiez et où est-ce que vous avez été envoyé?
Oui, ben, j'ai proposé aujourd'hui de partager une expérience de commandement particulière que j'ai vécue en 2016, donc il y a 5 ans maintenant. J'étais au 6e régiment du génie, j'étais commandant d'unité, donc je commandais une compagnie du génie de 120 sapeurs de marine. Et donc on a été projeté de janvier à mai 2016, de janvier à mai 2016, en Guyane, dans le cadre de l'opération Harpy.
Alors l'opération Harpy, on peut rappeler, c'est des opérations, bon, alors c'est toujours un peu particulier parce que c'est l'armée sur le territoire national, mais c'est quand même des opérations militaires dans la forêt contre l'orpaillage clandestin. Jean Michelin était venu nous raconter un souvenir d'Harpy déjà. Mais alors expliquez-nous, c'est peut-être aussi l'occasion de préciser un peu ce que fait le génie, ce que font les sapeurs. Voilà une unité quoi, de sapeurs en Guyane, dans la forêt, ça fait quoi?
Ça remplit déjà toutes les missions, ce qu'on appelle le socle commun, les missions pro-terre, que remplissent toutes les unités de l'armée de terre, donc à savoir de faire des patrouilles. Donc il faut savoir que c'est une mission qui est interministérielle, donc on est dans le cadre d'une réquisition et on travaille avec des gendarmes, et donc on remplit toutes ces missions de patrouille, de renseignement sur les sites d'orpaillage. Et les sapeurs apportent, en plus de ces capacités communes à toutes les unités de l'armée de terre, apportent des savoir-faire particuliers, que ce soit en termes de fouilles, notamment quand on arrive sur les sites d'orpaillage, une capacité à fouiller les sites d'orpaillage, une capacité aussi explosive pour les destructions de puits, puisque l'orpaillage peut aussi se faire par des puits, et donc l'un des procédés opérationnels utilisés, c'est la destruction des puits.
Donc vous prenez votre part aux patrouilles habituelles, oui. L'arme à la main, et en plus, bon, il y a tout un...
On amène toutes nos compétences, voilà, et qui peuvent être aussi des compétences fluviales, puisqu'on fait des barrages fluviaux, le plus important à l'époque, qui était un barrage d'une soixantaine de mètres de long, donc il faut vraiment avoir des savoir-faire très particuliers pour mettre en œuvre ce genre de dispositif. Donc les sapeurs amènent cette compétence, cette expertise.
D'accord. Et alors le jour, le moment, l'épisode que vous allez nous raconter, déjà, peut-être pour placer le tableau en quelque sorte, ça faisait longtemps que vous étiez là
Alors, nous, on est arrivés donc en janvier, janvier.
Vous restez combien de temps déjà du...
C'est des mandats de 4 mois. Voilà, c'est des missions de 4 mois. Et effectivement, l'événement... que j'ai proposé aujourd'hui, sur lequel j'ai proposé aujourd'hui de témoigner, est arrivé en fin de mandat, donc sur les 3 dernières semaines de mandat.
Vous étiez déjà bien habitué à la jungle, au milieu, aux missions, etc.
D'autant que c'était pas la première mission de la compagnie. La compagnie était déjà là en 2012. J'étais également en tant qu'officier adjoint cette fois-ci, et je dirais que le tiers de ma compagnie avait encore l'expérience de la Guyane. J'avais 2 sections de jeunes. Et donc oui, on était quand même...
Vous étiez des pros de la pirogue à ce stade-là, quoi.
Alors, la pirogue, des infiltrations à pied, et de toutes sortes de procédés tactiques qu'on peut mettre en œuvre en Guyane. On était... effectivement, je pense qu'on était aguerris, et on avait une vraie connaissance de la situation tactique. Et donc, ce qui nous a amené à mettre en place sur l'un des fleuves au nord de la Guyane, ce qu'on appelle un dispositif de surveillance. Donc c'est le volume d'un groupe qui surveille jour et nuit les passages de pirogues pour pouvoir donner un aperçu du trafic fluvial qui peut être légal, ça peut être simplement les gens qui résident là-dedans, ou illégal. Et donc ce dispositif de surveillance se fait de façon autonome quand il n'y a que des militaires, et puis quand les gendarmes nous renforcent, on peut compléter ça avec un dispositif de surveillance et d'interception. Donc, et on avait positionné à cet endroit-là parce qu'on savait que c'était un lieu de passage fréquent.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la nature est comment dire, peut-être cruelle en Guyane. Et donc, on a eu au moment où le groupe était stationné, les conditions météo étaient assez dégradées.
Et il y a dégradé,
c'était qu'il pleuvait et qu'il y avait du vent. Et il y a donc un arbre s'est abattu sur le groupe qui était stationné en point fixe en surveillance.
Ça avait quoi ? Ils avaient une petite casemate, une petite redoute ?
Non, ils avaient juste leur bâche au-dessus d'eux pour protéger de la pluie et pouvoir observer. Et l'arbre est tombé donc sur le groupe. Donc c'était en fin d'après-midi. Et donc là-dessus, il y a eu trois de mes sapeurs qui ont été gravement blessés, dont un qui décédera en fait 6 jours plus tard. Donc en fait,
c'est le coup de pas de bol.
Exactement.
Il n'y a pas grand-chose à faire.
On est face aux éléments. Il faut voir que dans les semaines précédentes, on s'était engagé de façon très forte dans ce milieu guyanais. On en connaissait. Tous les périls, et on est formé là-dessus. Vraiment, quand on arrive au 9e RIMA, qu'on fait les premiers stages de préparation, on est formé à tous les risques de la nature, et on est aussi formé au risque de l'engagement qu'on peut avoir face aux Garimpeiros, qui sont nos adversaires. Il ne faut pas oublier que les Garimpeiros peuvent être armés, donc on avait eu des missions plus qu'engageante pour mes sapeurs, avec des échanges de coups de feu qui, même si c'était sporadique et lointain, témoignaient d'un réel engagement. Et là, finalement, c'est la nature qui est venue nous arracher l'un de nos frères d'armes.
Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est plus facile d'imaginer le truc avec des ennemis qui vous tirent dessus ? Enfin, c'est plus dans la mentalité.
Alors, effectivement, c'est l'un des aspects de mon témoignage, c'est l'acceptation en fait de ce décès en opération, parce qu'il y a effectivement un caractère un peu injuste au fait que ce soit la nature qui emporte un de nos camarades, alors qu'on revenait du Mali, on avait été engagé sur des théâtres d'opération pas forcément plus exigeants, parce que la Guyane est vraiment très exigeante, mais où il y a un affrontement direct avec nos adversaires. Et là, on a eu quelques affrontements, mais c'est vraiment sur un fait, c'est un accident. C'est clairement un accident, mais c'est aussi un accident qui n'arrive pas à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un accident qui est arrivé dans des conditions d'engagement exceptionnelles d'un groupe de combat qui était plusieurs jours au même endroit pour surveiller une zone de trafic fluvial. Et donc voilà, effectivement, sur l'acceptation, il y a un sujet.
Alors déjà, quand ça arrive, il se passe quoi ? Enfin, donc il y a un arbre qui tombe sur la tente, quoi. Ils font quoi ? Ils s'évacuent eux-mêmes ?
Ce qu'il faut voir, c'est l'isolement de ce groupe au moment des faits.
Ils sont à combien de temps des autres ?
Ils sont à, je dirais, une heure de pirogue. Et ensuite, il y a des moyens héliportés, des hélicos qui peuvent rejoindre, mais plus ou moins rapidement, en fonction de leur disponibilité. Et leur seul moyen de communication, c'est la radio. Voilà, c'est les moyens radio. Donc, une fois que l'accident arrive, les comptes rendus remontent très vite, vers le chef de section tout d'abord, puis vers moi. Ceux qui gèrent les secours sur place, c'est ceux qui sont sur place. Ils envoient les messages formatés, ils font les demandes de secours, ils stabilisent les blessés. Immédiatement, on envoie...
Juste, ils étaient combien ? Vous avez dit, il y a 3 blessés, mais c'est sur combien ? Il y en a combien pour leur prêter assistance ?
Ma mémoire risque de me jouer des tours, mais ils étaient un petit groupe, ils étaient 7, je crois, au moment de l'accident, dont 2 gendarmes. Et très rapidement, le chef de section a porté des secours, puisqu'il a fait... En fait, on ne pouvait pas évacuer nos blessés parce qu'ils étaient l'un touché à la tête et l'autre à la colonne vertébrale. Et le troisième blessé à la jambe, mais moins gravement. Donc les deux ont été stabilisés sur place. Le chef de section a fait porter le maximum de secours qu'il pouvait vers l'avant pour les stabiliser et a très vite établi que l'évacuation par pirogue n'était pas possible, compte tenu de la gravité des blessures. Et donc on a fait une demande d'intervention par hélicoptère qui a été faite assez rapidement compte tenu des conditions météorologiques dégradées.
C'est quoi ça? Enfin, ça prend combien de temps? Ça prend 1 heure, 2 heures, 6? Enfin, c'est...
Oui, non, on est dans l'ordre, on est en 1 heure et demie, l'évacuation a été réalisée. Encore une fois...
Et vous étiez où à ce moment-là?
Alors moi, à ce moment-là, je suis encore plus loin. Hein, c'est-à-dire que moi, je suis commandant d'unité, donc j'ai 4 sections en Guyane avec moi, une qui est à Cayenne, et les 3 autres qui sont avec moi à Saint-Jean-du-Maroni. Et mes 3 sections sont une à Saint-Jean-du-Maroni et les 2 autres déployées sur des postes fixes. Et là, pour le coup, je suis assez loin d'eux. Pour vous donner une idée, la section en question, il me fallait 3 heures de route et un petit peu de pirogue pour les rejoindre. Donc c'était ça se faisait sur une journée complète, je pouvais aller les voir, mais généralement j'ai passé 1 à 2 journées sur place. Donc effectivement il y a un éloignement qui est incompressible, oui, on peut lutter contre nature, ça, hein, tout à fait, et qui fait que toute la difficulté c'est de ne pas être au contact d'une situation pour laquelle on aimerait pouvoir amener toute notre aide. Et là, la seule aide qu'on peut apporter, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, décharger un maximum possible les gens qui sont sur place, qui font les demandes d'évacuation, les décharger un maximum possible de tous les comptes rendus vers le haut, et sans être non plus trop intrusif, pour pas leur faire perdre du temps sur des rédactions de comptes rendus. Alors, on a besoin de savoir, on est pressé par nos chefs de savoir, d'avoir un état de la situation, et donc il faut filtrer tout ça. Et arriver à finalement ne faire remonter que les informations pertinentes, ne poser que les questions pertinentes, et surtout mettre de l'huile dans les rouages pour débloquer un maximum les situations et faire arriver au maximum, le plus rapidement possible, les bons secours au bon moment. Et donc, effectivement, il y a...
Et ils sont, les blessés, ils sont évacués vers vous? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez aller les... Enfin, d'ailleurs, si tant est que ce soit intéressant à ce moment-là de le faire, mais ils sont évacués vers vous ou est-ce qu'ils sont évacués encore vers un autre endroit?
Non, moi, à ce moment-là, ma personne, même en tant que chef, ne...
Mais vers l'endroit où vous êtes, ça pourrait être l'endroit où il y a le poste de secours.
Ils ont été évacués directement sur Cayenne. Hein. Enfin, faut bien voir que en Guyane, tout est centralisé principalement sur Cayenne. Donc, ils ont été évacués par voie aérienne vers Cayenne, en tout cas, de mémoire, 2 sur 3. Le troisième étant moins gravement blessé, je crois qu'il a été évacué par voie routière. Et donc voilà, donc la gestion de crise se termine pour nous, la gestion de crise immédiate, on va dire, parce qu'en fait la crise dure plus longtemps, au moins 1 semaine. Mais la gestion de crise immédiate se termine avec l'évacuation de nos blessés et un premier bilan qui est donc une blessure à la jambe, une blessure grave à la colonne vertébrale et un trauma crânien très sévère.
Ouais, et là, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites de la mission? C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire, la manière dont vous le décrivez, ça paraît être un truc à la fois nécessaire, mais en même temps pas d'une urgence absolue, de mesurer le trafic fluvial. Pour autant, on sait qu'on répète que la mission est sacrée pour les militaires. Donc, dans un cas comme ça, comment est-ce qu'on arbitre le truc?
Très simplement, pour ma part, toutes les unités qui étaient en dehors de cet événement-là ont poursuivi leur mission. Et je les ai informés de la situation le plus tôt possible parce qu'ils avaient à en connaître, puisque c'était l'un de leurs camarades qui était concerné. Mais l'unité sur place a eu un gel de la mission de quelques heures, le temps de gérer l'évacuation. Et puis la mission reprend dès le lendemain. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir cette culture-là, quel que soit le côté insupportable de cet événement-là, mais c'est d'avoir cette culture-là de poursuivre la mission, parce qu'elle a du sens, en fait. Elle a le sens de tout l'engagement qu'on y a mis en préparation opérationnelle avant, et puis c'est l'aboutissement de mois et de mois de formation, Et donc, quand on est engagé en Guyane, on croit en ce qu'on fait, on croit qu'on mène une action, et moi j'en suis persuadé qu'on mène une action, il faut regarder les résultats pour s'en convaincre. Donc en fait, on relance immédiatement la mission, dès lors qu'on a géré l'évacuation sanitaire, mon chef de section a poursuivi sa mission.
Ouais, et donc vous gérez l'évacuation. Par exemple, là, 7 personnes, il y en a 3 qui sont blessées. Les 4 autres, on en fait quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'ils sont blessés, par exemple, psychologiquement? Parce que bah, oui, c'est pas rien de se prendre un arbre sur la tempe, littéralement. Ou est-ce qu'on considère que, bon, ils sont aptes quand même, puisqu'ils sont pas blessés?
Il y a évidemment une prise en compte psychologique. Et je dirais que c'est le point de vigilance du commandement, pour le coup. En fait, on est déchargé très rapidement des blessures de nos soldats. C'est-à-dire qu'on n'a plus la main là-dessus. C'est dans les mains des chirurgiens, c'est dans les mains de gens qui essayent de faire des miracles pour leur sauver la vie. Et nous, en fait, notre préoccupation à ce moment-là, c'est de s'assurer que l'unité qui a été touchée soit en capacité de, notamment psychologique, de poursuivre sa mission. Et donc effectivement, il y a des décisions qui ont été prises, des gens qui étaient très proches de nos camarades blessés, qui ont été sortis de la mission temporairement pour se reposer, pour évacuer. On a eu la chance d'être particulièrement bien soutenus par le 9e régiment d'infanterie de marine. On a eu une aumônier catholique qui est venue sur place le lendemain, qui était présente, le chef de corps était présent le lendemain. Bon, évidemment, j'étais présent le lendemain aussi auprès de mes hommes pour.
C'est important l'aumônier ?
Alors, ça a été important, évidemment. Alors, ça a été important à plusieurs titres.
C'est-à-dire, est-ce que c'est important pour les catholiques ou est-ce que c'est une fonction plus large au sein d'une troupe ?
Pour cet exemple-là, ça a été important le côté catholique parce que il s'avère que notre camarade était issu de la communauté tahitienne. Et donc vraiment l'aspect spirituel et religieux est important. Et pour ses camarades, il était fondamental qu'il y ait un aspect de soutien et de l'aumônier catholique dans cette situation-là. Donc ça a été fondamental. Et pour d'autres aussi également. Et j'ai eu également, mais alors dans d'autres cas, pu constater que même en dehors d'un cadre religieux, l'aumônier catholique avait une part à prendre auprès des unités.
Oui, c'est-à-dire c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour s'occuper de,
oui, puis
pas envie de dire des âmes, mais pour s'occuper en tout cas.
Effectivement, on a quelqu'un qui est en dehors de la chaîne de commandement, qui a une vraie qualité d'écoute et qui peut sur des problèmes, mais parfois très quotidiens, amener un avis. Donc, moi j'ai découvert en tout cas pendant cette mission-là, alors c'était peut-être lié à la qualité de la personne, mais j'ai découvert pendant cette mission-là la vraie plus-value. Et pendant ce fait-là, plus particulièrement, le soutien. Mais après, sans focaliser sur ce soutien-là, j'ai évidemment été soutenu par mes chefs, le chef de corps du 9e régiment d'infanterie de marine, et mon chef de corps qui était en France, au 6e régiment du génie. Voilà, c'est-à-dire qu'à tout moment, on avait vraiment un vrai soutien. Et pareil, de la même façon que moi, je souhaitais décharger mon chef de section de choses pas importantes pour lui, eh bien moi j'ai aussi été déchargé de choses, de tâches pas importantes, et qui ont été faites par mon régiment, par exemple. Donc c'était très bien.
Mais alors, vu la nature de l'incident, de ce qui s'est passé, comment ça se passe? Je veux dire, on sait qu'une grande partie du boulot des militaires, c'est de débriefer, analyser, apprendre, accumuler de l'expérience, etc. Ce qui, bon, voilà, quand il s'agit de déjouer des IED dans Barkhane, on peut comprendre que ça, là, il faut se mettre moins près des arbres ou rien du tout. Non, mais c'est une vraie question, quoi. Oui. Est-ce que on peut apprendre d'un truc aussi aléatoire, quoi?
Alors, on apprend évidemment. Et pour tout dire, la menace des arbres, c'est pas une menace qu'on a découvert ce jour-là. C'est-à-dire que quand on fait ce qu'on appelle les stages prémifores en début de mandat en Guyane, stage de préparation aux missions en forêt, c'est une petite semaine pendant laquelle on est formé à la forêt. Et pendant cette mission, pendant ce stage de formation, on nous dit très clairement que ce risque existe. Et quand on s'installe sur une zone, l'une des premières choses qu'on fait, c'est d'inspecter qu'il n'y ait pas d'arbres qui menacent de, de tomber.
Mais j'essaye de reproduire. Est-ce que ça peut être ce genre d'inspection dans la forêt? Enfin, quoi, vous tapez sur les arbres pour vérifier qu'ils sont solides?
Non, mais
à quoi ça ressemble, quoi?
Visuellement, on voit très bien si des arbres sont déjà en train de tomber. Mais après, il y a des choses qu'on ne voit pas non plus. Et là, en l'occurrence, le groupe qui a subi cet accident-là, ce n'était pas le premier à s'installer à cet endroit-là. Il y a eu... avant notre mandat, il y avait déjà des gens qui s'installaient là-dessus. Donc, faut voir que c'était peut-être depuis des mois que des gens s'installaient là. Donc, en fait, il y a une forme de fatalité aussi. Et là, clairement, il était impossible de prévoir que l'arbre allait tomber. Donc, qu'est-ce qu'on en tire en termes de rétexte?
Vous pensez que c'est plus dur ou plus facile? Le fait que il y avait rien à faire. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est plus dur au sens où il y a rien à faire, ou est-ce que c'est plus facile au sens où on pouvait rien faire,
quoi? Non, dans l'acceptation, moi j'ai eu le sentiment, mais c'est très personnel, que c'était plus dur à vivre, plus dur à accepter. Comme je disais, la compagnie avait été engagée avant en Afghanistan, au Mali, sur des zones où quand on y va, on s'attend à ce qu'il y ait des accrochages, on sait qu'on a face à nous des ennemis avec une intention hostile, et donc on sait que cette intentionnalité peut amener des morts dans nos rangs. Or là, il n'y a pas d'intentionnalité de la nature. On ne peut en vouloir à personne, vous voyez ce que je veux dire? Même si le fait d'en vouloir à quelqu'un, c'est pas forcément ça. Mais je veux dire, on ne peut s'en prendre à personne. Et donc, effectivement, il y a ce côté injuste qui est quand même difficile à accepter. Et moi, pour ma part, la façon dont j'ai pu accepter cette injustice-là, c'est le sens de la mission. C'est-à-dire le sens que cette mission peut avoir, et donc donner du sens à la mission, que ce soit par les faits, c'est-à-dire par les résultats qu'elle produit. Et puis aussi par l'esprit de corps, c'est-à-dire le fait qu'on s'engage ensemble et qu'on est de la préparation opérationnelle jusqu'à la fin de la mission, on est tous engagés dans une même mission avec un esprit qui nous unit. Et en fait, on s'engage pour soi-même et on s'engage aussi pour son camarade qui est à côté. Donc tout ça a permis de donner du sens à ce qui, quand on voit disparaître un frère d'armes d'une vingtaine d'années, peut paraître injuste. Mais voilà, toutes ces notions-là peuvent donner du sens à ce décès.
Et du coup, le rétexte, puisque je vous ai interrompu là-dessus, c'était quoi le rétexte de cet épisode particulier?
Alors, le rétexte, bon, déjà, c'est sur la préparation en forêt. Ça a validé effectivement le fait qu'il y avait un danger lié aux arbres. Mais on le savait déjà.
Vous le savez, mais c'est pas pareil de le savoir et de le...
Et de l'avoir vécu, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Et donc, je pense que dans les mandats qui nous ont suivis, effectivement, il y a eu un accent qui a dû être porté là-dessus particulièrement, avec peut-être des techniques pour repérer les arbres qui étaient plus fragiles que les autres, c'est possible. Et puis en fait, le rétexte le plus important, c'est en termes de préparation, préparation intellectuelle des chefs et préparation administrative. Préparation intellectuelle, c'est quand on envoie une unité dans une mission comme la Guyane, s'assurer que les chefs soient conscients de ce danger et prêt à le gérer. Le régiment, par exemple, en base arrière, a dû gérer une cellule de crise. Et donc, je sais que maintenant, à chaque fois qu'il y a des détachements qui partent, on s'entraîne à monter ces cellules de crise et on s'appuie forcément sur l'expérience acquise à ce moment-là. La préparation administrative, c'est s'assurer que chaque soldat qui part en opération soit prêt administrativement pour parer le cas échéant à ce qui peut arriver.
C'est-à-dire quoi, pré-administrativement?
Pré-administrativement, c'est pouvoir prévenir la famille dans des délais, dans les meilleurs délais.
Parce que là, c'était pas le cas.
Si, bien sûr que ça a été le cas. C'était le cas parce que ça a été bien fait. En fait, dans un rétexte, on en tire les bonnes conclusions et les mauvaises conclusions. Et là, l'une des bonnes conclusions, c'est qu'on avait un travail qui avait été fait par le bureau environnement humain du régiment avant qu'on parte. Une forte pression qui nous avait été mise pour que chacun de nos sapeurs ait un dossier administratif complet. Et je les en ai remercié parce que quand l'accident est survenu, la famille de ce sapeur de marine habitait, donc comme je l'ai dit, en Outre-mer. Et donc là, quand il s'agit de contacter des gens qui ne sont pas sur le territoire métropolitain, eh bien tout de suite, il faut être certain de connaître la bonne adresse, le bon numéro de téléphone, les bons relais. Et parce que ce travail administratif-là a été fait avant, eh bien on a pu le faire. Et ça permet de prévenir les familles le plus décemment possible, sachant que pour le coup, là, le chef de corps ne peut pas se déplacer pour faire l'annonce du décès. Donc c'est une autre personne qui va devoir se déplacer. Il faut aussi qu'elle ait des éléments sur la personne décédée pour intervenir dans les meilleures conditions. Donc la préparation.
Il faut pas que ce soit un truc très vague. Enfin oui.
Il faut pas que ce soit impersonnel. Donc et pour que ce ne soit pas impersonnel, il faut qu'on ait ce que j'en dis, la meilleure préparation administrative. Donc ça fait partie aussi des enseignements de Retex. On a des enseignements en termes d'évacuation de blessés, c'est-à-dire que on se pose la question de comment raccourcir les délais. Est-ce que les moyens SAN à disposition étaient optimales, pas optimales? Donc là, alors après, je suis un peu sorti de cette boucle du Retex parce que notre mission s'est achevée, mais il est certain que le 9e régiment d'infanterie de marine qui commande cette opération à Saint-Jean-de-Maroni a forcément tiré des enseignements sur les évacuations sanitaires. Et là, pour le coup, on est dans l'opérationnel. Donc tout fait amène effectivement à Retex, qui permet d'améliorer, soit de valider des procédures, soit d'en créer d'autres pour la sécurité de nos soldats.
Très bien. Merci beaucoup, commandant Julien.
Merci.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.